France Info.
Qui gardera un ciel assez lumineux. Le froid s'attarde toujours sur le nord-est, alors qu'ailleurs, les températures sont assez homogènes. Ce matin, par exemple, il fait moins 3 à Nancy, contre 8 à Paris comme à Lyon, 10 au Havre comme à Saint-Nazaire, à Bayonne et même à Toulon.
Même à Toulon, merci beaucoup Toulon. Christine Peña, tout à l'heure dans 10 minutes. Et merci à tous d'écouter France Info en ce 22 janvier, il est 5h. Et à la une donc ce matin, Donald Trump est-il en train de reculer? C'est encore flou, mais il propose désormais un cadre pour un accord sur le Groenland et plus de droits de douane pour les Européens. On va faire le point dans un instant. À la une également, le couple Moretti auditionné. Vous entendrez ce qu'ont dit les gérants français du bar de Cran Montana aux enquêteurs. Bar qui a brûlé, on le rappelle, le soir du réveillon avec une quarantaine de morts en Suisse. La pêche interdite pour un mois à partir d'aujourd'hui dans le golfe de Gascogne. C'est pour protéger les dauphins, on entendra les pêcheurs. Et puis l'OM qui n'a pas fait le poids, battu en Ligue des Champions au Vélodrome par Liverpool. Donald Trump continue, c'est son habitude, de souffler le chaud et le froid. Les Européens sont sans doute un peu perdus ce matin au réveil et les Groenlandais encore plus. Hier, le président américain a finalement exclu, après des semaines de menaces, d'utiliser la force pour s'emparer du territoire arctique du Danemark. Et dans la nuit, il a finalement annoncé, même Franck Madvon, un cadre pour un accord avec l'OTAN.
C'est une réunion très productive, selon Donald Trump, avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui aurait dessiné le cadre d'un futur accord sur le Groenland. Ce compromis donnerait-il le contrôle de l'île aux États-Unis? Pas de réponse claire à ce stade, mais le projet satisfait suffisamment le président américain pour qu'il lève ses menaces d'une nouvelle guerre commerciale. D'après des sources militaires, l'OTAN aurait discuté de la possibilité pour Washington d'exercer sa souveraineté sur certaines zones du territoire pour y installer des bases militaires. Un peu plus tôt, à la tribune du Forum de Davos, Donald Trump a redit combien le Groenland était essentiel pour la sécurité des États-Unis, une île que seul Washington peut protéger, dit-il. Certes, l'Américain a exclu un recours à la force contre le territoire, mais il a surtout montré les muscles avec l'Europe, envahie par l'immigration, dépendante des États-Unis, dont certains lieux ne sont plus reconnaissables. Donald Trump a cherché à démontrer qu'il pouvait obtenir ce qu'il voulait compte tenu de la puissance de son pays, grâce à la simple menace des droits de douane.
Merci beaucoup Franck Madvon à Washington pour France Info. Et d'ailleurs, pour le moment, on ne sait pas si les 200% de droits de douane annoncés contre les vins et champagnes français sont toujours d'actualité, alors que la France continue de refuser pour le moment d'intégrer le Conseil de paix que Donald Trump veut créer, une sorte de Conseil de sécurité de l'ONU bis. D'ailleurs, la France et Emmanuel Macron ont à nouveau été moqués hier par Donald Trump à Davos, au Forum économique. Emmanuel Macron doit aujourd'hui participer à un Conseil européen informel à Bruxelles et on va voir s'il va répondre, Paul Barcelone, à ces moqueries de Donald Trump sur ses lunettes de soleil ou encore sur le prix des médicaments.
Quand Donald Trump se moque de son ami Emmanuel Macron qui a essayé de faire le dur à cuire avec ses lunettes de soleil portées en raison d'un problème à l'œil, l'Élysée ne répond pas. On ne va pas rentrer dans son jeu, explique un proche. En revanche, quand Donald Trump se vante d'avoir forcé le chef de l'État a augmenté le prix des médicaments, la présidence montre les muscles. Avec ce tweet officiel « fake news », accompagné d'un mème, une image animée de Donald Trump, pour bien rappeler que le chef de l'État ne fixe pas leur prix, encadré par la sécurité sociale et donc resté stable. Tous ceux qui sont entrés dans une pharmacie française le savent, poursuit l'Élysée. Avec cette petite pointe de provocation, Trump n'est qu'un gosse, enrage un soutien d'Emmanuel Macron comme d'autres. Il plaide pour une allocution à la télé, réexpliquer la situation international aux Français et ne pas laisser les discours de Donald Trump infuser dans l'opinion. À ce stade, elle n'est pas prévue.
Merci beaucoup Paul Barcelone. Nous allons revenir d'ici 5 minutes donc avec un dossier Groenland sur ces nouveaux propos de Donald Trump. On entendra des réactions européennes d'ailleurs sur l'annonce de la fin de ces droits de douane qui n'avaient jamais vraiment commencé d'ailleurs. France Info 5h04, les États-Unis annoncent qu'ils vont transférer jusqu'à 7000 détenus de camps djihadistes en Syrie vers l'Irak pour s'assurer qu'ils restent dans des prisons sécurisées, alors que des évasions sont redoutées ces derniers jours depuis le début d'une offensive de l'armée syrienne dans des régions kurdes où étaient détenus jusqu'à maintenant maintenant ces djihadistes. Jacques et Jessica Moretti ont dû s'expliquer devant la justice suisse, entendus pendant de longues heures hier et avant-hier, auditionnés après l'incendie, rappelons-le, de leur bar dans la station suisse de ski de Grand Montana la nuit du réveillon du Nouvel An. 40 personnes sont mortes ce soir-là, 116 ont été blessées. C'est la première fois, Aurélien Tirard, que le couple Moretti est entendu sur le fond de l'affaire.
Oui, sous les yeux d'une trentaine d'avocats de victimes. La plupart d'entre eux ont dû suivre les interrogatoires depuis une salle de retransmission. Devant eux, Jacques et Jessica Moretti, interrogés par les procureurs. Selon un participant, ils sont apparus très dans le contrôle. Les magistrats n'ont pas réussi à les bousculer. Jessica l'assure, si elle se trouvait bien dans son bar au moment de l'incendie, elle n'a pas fui avec la caisse remplie d'argent, comme l'a écrit la presse italienne. Tous les deux l'affirment. Le personnel du bar avait bien été formé aux règles de sécurité, mais selon eux, certains employés ont oublié les consignes à appliquer en cas d'incendie. Par ailleurs, Jacques Moretti le dit, il avait testé dès 2015 la résistance au feu des mousses acoustiques sans que cela ne l'alerte. Cet isolant est soupçonné d'être à l'origine de l'incendie. Il l'avait lui-même installé dans le sous-sol du bar. Hier soir, Jacques Moretti est reparti en prison. Il espère toujours être libéré sous caution.
Aurélien Tirard du service police-justice de France Info. Un homme de 66 ans en Haute-Savoie vient d'être condamné à 5 ans de suivi socio-judiciaire assorti d'une injonction de soins. Il fait partie des hommes arrêtés pour avoir commandé une poupée pédopornographique, une poupée sexuelle à l'image d'enfants, des objets que l'on retrouvait en vente, rappelez-vous, sur des plateformes en ligne comme Shein. Ils resteront à quai pendant un mois des bateaux de la façade atlantique. Plusieurs centaines de bateaux de pêche pour la troisième année consécutive. La pêche est totalement interdite à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 20 février dans le golfe de Gascogne. Alors c'est une mesure décidée par la justice. L'objectif, c'est d'éviter les captures accidentelles de dauphins. Elles se sont multipliées ces dernières années. D'ailleurs, cette mesure, elle se prouve et elle s'avère efficace. 60% de captures accidentelles en moins l'hiver dernier. C'est la troisième année consécutive, on le rappelle, mais c'est évidemment un coup très dur pour la filière, pour les pêcheurs. Guillaume Fariol, d'ailleurs, sur place, plusieurs équipes ont été dépêchées, des équipes de chercheurs qui planchent sur des solutions plus souples et ils viennent d'ailleurs de publier un rapport.
Des survols de l'océan, des observations par bateau, des analyses biologiques sur les dauphins échoués. Pendant 3 ans et demi, les scientifiques de l'Observatoire Pélagis et de l'Ifremer ont scruté les dauphins, leurs proies également, et ils ont mis sur pied une première carte du risque de captures accidentelles, ce qui pourrait permettre de limiter la fermeture de la pêche dans les prochaines années, explique Mathieu Doré, chercheur à l'Ifremer.
Il semble que le risque de capture de dauphins soit encore plus important quand il y a un certain type de proie présent dans la zone. On arrive à faire des cartes de risque de capture qui sont assez précises. Donc on ne fermerait que les zones les plus à risque, des fermetures plus localisées qui permettraient de moins impacter la filière pêche.
Les scientifiques proposent aussi de changer la taille des filets. Plus ils sont petits, moins il y a de risque de capturer un dauphin. Et pour encourager les pêcheurs à se convertir à ces bonnes pratiques,
l'idée ce serait d'attribuer plus de quotas, plus de possibilités de pêche aux pêcheurs qui font le moins de captures accidentelles pour les inciter à adapter leurs pratiques pour essayer de limiter au maximum les captures accidentelles de dauphins.
Autre solution avancée, la pêche à la ligne, encore moins risquée, ou l'installation de répulsifs sonores sur les bateaux pour faire fuir les dauphins.
Merci Guillaume Fariol sur cette interdiction donc pour un mois de la pêche dans le golfe de Gascogne. Ce devrait être la dernière année, mais ce pourrait bien être prolongé. Des associations de défense de l'environnement ont saisi la justice pour le réclamer. C'est une défaite logique, mais elle a bien plombé le moral des Marseillais hier soir. L'OM a été largement battu au stade Vélodrome, 3-0 en Ligue des Champions par Liverpool pour l'avant-dernière journée de la phase de qualification de la compétition européenne. Évidemment, l'OM n'a pas pesé face aux champions d'Angleterre. Les Marseillais, pour obtenir leur qualification pour les barrages, devront donc sans doute s'imposer lors d'un dernier déplacement mercredi prochain à Bruges. Ce sera une vraie finale car les 9 points qui ont été décrochés depuis le début de la compétition par Marseille, Nicolas Perronnet, il pourrait ne pas suffire en cas de défaite.
Les chants anglais résonnent encore dans le Vélodrome, mais les joueurs marseillais, eux, ne pensent déjà qu'à une chose, leur finale, dans une semaine à Bruges, juste le temps rapidement d'évacuer cette fête gâchée face à Liverpool. Pour l'argentin Facundo Medina,
personnellement je suis un peu dégoûté.
Comme pour son compatriote et capitaine Léo Balerdi.
C'est une soirée un peu triste, mais il faut continuer, On a les derniers contre Bruges et on va gagner, on va se qualifier.
C'est donc dans la Venise du Nord que l'OM tentera de garder la tête hors de l'eau. Et ce ne sera peut-être pas si simple, tant perd l'ailier Timothy Weah.
Je connais Bruges, jouer là-bas c'est pas facile du tout. Donc non, on doit rester tous ensemble. On a beaucoup d'ambition dans ce club. Je pense que mentalement on est bien en ce moment.
Et mieux vaudra l'être car l'ascenseur émotionnel en Belgique pourrait être violent. L'OM n'aura pas forcément besoin de gagner pour se qualifier mais n'est pas non plus à l'abri d'un scénario catastrophe en cas de défaite.
Merci beaucoup Nicolas Perronnet. Christine Peña, c'est l'heure de votre météo à 5h10 avec ce froid qui fait du surplace sur le nord-est uniquement.
Uniquement sur le nord-est, voilà. On a des gelées qui s'attardent toujours du côté de Nancy, de Metz. On est à moins 2, moins 3 degrés tout de même ce matin, alors que partout ailleurs, on est entre 8 et 10 degrés. Une masse d'air assez homogène sur le reste des régions. Et cet après-midi, même chose, 3 à Strasbourg seulement, contre 12 à Paris, comme à Rennes, à Bordeaux, à Marseille également 12 degrés. Vous voyez qu'à part le nord-est, les températures sont homogènes et les prochains jours, alors, elles devraient baisser mais légèrement. On n'a pas encore cette vague de froid là qui voudrait s'imposer, venue de Russie et de Scandinavie. On a toujours ce courant d'ouest perturbé, c'est vrai, mais beaucoup plus doux qui s'impose sur la France.
Merci beaucoup Christine Peña. 5h11.
France Info, 6h-9h.
Bonjour, c'est Jérôme Chapuis. Je vous retrouve tous les matins dès 6h avec toutes les équipes de France Info, nos chroniqueurs, l'édito politique, le décryptage éco, France Info Monde, nos invités, les enquêtes et reportages de la rédaction, toute l'actu qui vous concerne pour rester informé en toute confiance.
6h-9h, du lundi au jeudi, c'est Jérôme Chapuis sur France Info.
Les commerçants vont-ils pouvoir ouvrir le 1er mai comme les autres jours? Le débat arrive à l'Assemblée aujourd'hui alors que des établissements ont été verbalisés ces dernières années. La loi l'interdit jusqu'à maintenant. Reportage dans 5 minutes. Nous serons aussi en Chine où le gouvernement demande désormais aux constructeurs de voitures de revenir à la bonne poignée, la bonne vieille poignée mécanique pour ouvrir les portières. Vous verrez que les poignées nouvelle génération électroniques ont parfois causé des drames. Mais d'abord ce nouvel épisode donc du feuilleton Groenland.
France Info, 5h-6h, William Lecosta.
Et ce qui ressemble à un rétro-pédalage de Donald Trump, il n'est plus question pour le président américain d'imposer des droits de douane supplémentaires aux pays européens qui s'opposent à son projet d'annexion du territoire arctique qui dépend du Danemark. Donald Trump annonce dans la nuit un cadre d'un futur accord avec l'OTAN et il estime donc qu'il n'y a plus lieu d'imposer 10% de taxes à 8 pays dont la France. Alors est-ce vraiment un recul au Parlement européen? En tout cas, Fabien Cazot, les eurodéputés, ils se montrent très méfiants.
Ce revirement est-il le dernier? Il y a presque un an, Donald Trump avait déjà fluctué dans ses annonces de tarifs douaniers qu'il comptait infliger au monde entier. Cette fois, il change d'avis en 4 jours. Au-delà de l'accord conclu avec l'OTAN au sujet du Groenland, la présidente de la Commission des affaires économiques du Parlement européen, Aurore Laluc, veut aussi voir dans ce revirement une conséquence des menaces de représailles commerciales brandies ces derniers jours par les Européens.
L'Union européenne et certains États membres ont fait ce qu'ils ne sont pas habitués de faire. Ils ont posé des limites très clairement. Ils ont menacé de sortir un certain nombre d'outils vis-à-vis des États-Unis à travers l'outil anti-coercition ou ce genre de choses. Eh bien, ça prouve qu'en fait, le monde ne s'effondre pas quand on ose brandir ce type de sanctions. Et non seulement ça, mais en plus, Donald Trump recule.
D'autres eurodéputés notent également que les marchés financiers américains ont dévissé en début de semaine à la suite de l'annonce des nouveaux droits de douane que comptait infliger Donald Trump aux pays européens. De quoi également convaincre le président américain qui s'est encore fait fort hier à Davos de défendre très longuement son bilan économique.
Merci beaucoup Fabien Cazot, correspondant européen de la rédaction de France Info. Alors comment interpréter ce revirement, cette reculade de Donald Trump, apparent en tout cas? Christian Saint-Etienne est membre du Cercle des économistes, il est professeur d'économie et spécialiste de la politique de Donald Trump.
Ce qui est stupéfiant, c'est que Trump n'avait pas du tout la nécessité de provoquer une crise de cette nature. Depuis les années 50, les États-Unis ont le monopole militaire sur le Groenland. Donc, ce qui est terrifiant là-dedans, c'est que c'est une vision du 19e siècle, c'est-à-dire une volonté d'agrandissement en kilomètres carrés, mais alors qu'aujourd'hui, tout se joue sur l'IA et les nouvelles technologies.
Est-ce qu'on peut imaginer un accord sans transfert de propriété, mais finalement une négociation sur le fait que, comme vous l'évoquiez il y a un instant, les militaires américains pourraient prendre le contrôle de l'île sans finalement obtenir la propriété du Groenland? Une forme de statu quo, mais tout en donnant raison au président américain pour satisfaire son ego.
C'est ça qu'il faudrait faire. Je pense qu'in fine, on va aller vers une solution qui serait acceptable aussi par les habitants du Groenland. Il faut se souvenir que les Inuits sont opposés à 85% à leur incorporation au sein des États-Unis. Je pense qu'on va terminer par quelque chose, au moins pendant une période temporaire, qui serait un condominium américain, où ils assureraient tout l'aspect défense sur le plan militaire du Groenland et où les habitants du Groenland garderaient une certaine autonomie politique. Ça serait la solution intelligente. On pourrait imaginer que dans un second temps, en faisant des chèques à chacun des Inuits qui ne sont pas si nombreux, ils sont un peu moins de 60 000, Trump a déjà imaginé de donner 100 000 dollars à chacun pour les attirer au sein des États-Unis. Mais il faudrait qu'il ait l'intelligence de laisser du temps. La question, c'est comme il veut absolument être le président qui aura mis le Groenland au sein des États-Unis, je crains qu'il n'ait pas l'intelligence de la patience. On n'est pas à l'abri d'une accélération, mais l'idéal, c'est un condominium. On pourrait même imaginer l'idéal d'un condominium entre les États-Unis et l'OTAN. En fait, il y a une vraie question militaire, parce qu'avec la déglaciation, oui. les Russes et les Chinois pourraient passer le long du Groenland, mais en faire une question de propriété du sol du Groenland, il a dit d'ailleurs, moi tout ce que je veux, c'est un morceau de glace. Bon, donc, ne m'empêchez pas d'être propriétaire, mais enfin, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Mais effectivement, on est face à un homme qui pense en kilomètres carrés et qui ramène les kilomètres carrés à son nombril, donc on est obligé de prendre en compte son ego.
Christian Saint-Étienne, membre du Cercle des économistes, auteur de Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe. C'est aux éditions Odile Jacob. Il répondait sur France Info à Julien Langlais. À l'heure actuelle, c'est interdit, mais la loi va peut-être changer. Sur le 1er mai, ces dernières années, des boulangeries à Paris, en Vendée, ont été la cible de contrôles inopinés et ont été verbalisées pour avoir ouvert leurs rideaux et fait travailler surtout leurs salariés ce jour-là, alors que le droit l'interdit. Rappel juridique, il est possible de travailler le 1er mai dans des établissements qui ne peuvent pas interrompre leur travail ce jour-là, ou alors le chef d'entreprise peut ouvrir mais ne doit pas faire appel à ses salariés. Alors, pourquoi parlons-nous de cela aujourd'hui? Eh bien, car les LR ont carte blanche à l'Assemblée aujourd'hui pour fixer l'ordre du jour et ils veulent faire voter une de leurs propositions de loi qui doit autoriser les commerces de bouche et de proximité à ouvrir en toute légalité le 1er mai. Qu'en pensent les commerçants? Vous leur avez posé la question à Paris, Héloïse Roger.
Le 1er mai, l'an dernier, Philippa, qui vend des fleurs à la Madeleine depuis 15 ans, s'en souvient très bien.
Il y en a qui ont fermé parce qu'ils ont paniqué et ils ont cru qu'ils pouvaient pas ouvrir. Donc il y a des producteurs qui se sont retrouvés avec des pots de muguet invendus en dernière minute. Et nous, d'ailleurs, toute la journée, on m'a demandé, mais vous êtes ouverte? Est-ce que vous avez le droit? Mais est-ce que je peux vous acheter du muguet? Enfin, il y a eu une panique, vraiment.
Alors elle est contente que cette proposition de loi arrive à l'Assemblée. Elle travaille tous les 1er mai, surtout que pour la profession, c'est une journée très importante pour une raison.
Le muguet, ça reste une vraie tradition pour la population.
Tiffany est fleuriste dans le 15e arrondissement depuis 10 ans et elle a fait le choix elle aussi d'ouvrir sa boutique ce jour-là.
Ça fait partie de notre chiffre d'affaires qui est non négligeable, qui est double, triple, quadruple d'une journée classique, quoi. Tant que les gens sont rémunérés, vous ne trouvez pas ça choquant?
Même totalement normal pour certains commerces de bouche. Philippe est boulanger, installé depuis 35 ans, président des boulangers de Paris.
Moi, ça m'est arrivé de travailler le 1er mai, ça ne m'a jamais causé aucun problème. Même au niveau de salariés, c'était tout à fait normal. Les boulangers veulent travailler le 1er mai pour fournir du pain et de la pâtisserie aux clients qui, en fait, aiment trouver du pain frais tous les jours.
C'est aussi l'argument défendu par Antonin qui, lui, est salarié dans une boucherie depuis 5 ans.
Nous, on considère qu'on est un commerce quand même nécessaire, quasi essentiel dans la vie des gens. Pour ce qui est de la boucherie et des métiers de bouche, ça me choque pas. Je trouve ça plutôt normal que les clients puissent tous les jours choisir et ne pas avoir leur habitude culinaire ou en tout cas gastronomique changée, quoi.
Mais il le concède, le choix devrait être le maître mot, avis que partage Céline.
S'il y a de la demande pour ouvrir un 1er mai, pourquoi pas ?
La fromagerie dans laquelle elle travaille est systématiquement fermée le 1er mai. Si elle pouvait y travailler, pas sûr qu'elle accepte.
On arrive à 7h, on repart à 20h. C'est des grosses journées pour nous. Donc on estime qu'avoir un jour férié dans l'année, c'est pas mal. Et il est bien mérité.
La proposition de loi, si elle est adoptée, permettrait le travail dans ces commerces de salariés volontaires. Une illusion, dénonce la CGT, qui craint que ça devienne une condition impossible à refuser. L'intersyndicale redoute, elle, que cette dérogation s'étende progressivement à tous les commerces de France.
France Info, reportage signé Héloïse Roger. Nous serons en Chine dans un instant où les autorités réclament aux constructeurs de voitures électriques de revenir aux poignées de portière mécanique. On va vous expliquer pourquoi c'est important. Ce sera après un tour complet de l'actu.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
À 5h20, c'est l'heure de l'info en une minute avec vous et à la une, Donald Trump qui affirme qu'il a conçu le cadre d'un futur accord sur le Groenland.
Le président américain affirme qu'il a pu en discuter avec le chef de l'OTAN. Il renonce à la hausse des droits de douane prévue le 1er février prochain pour les pays qui s'opposeraient à la prise du territoire danois. Mais de son côté, le chef de l'OTAN affirme que le sujet de la souveraineté du Groenland n'a pas été abordé avec Donald Trump. C'est une information de la cellule d'investigation de Radio France. Alors que Lactalis a rappelé hier 6 lots de lait infantile, on apprend que les autorités françaises étaient informées depuis au moins 5 jours, informées de la présence d'une toxine dans les laits Pico. La direction générale de l'alimentation affirme que les premières analyses n'avaient pas mis en évidence de taux jugés problématiques. Une condamnation à 5 ans de suivi socio-judiciaire et une injonction de soins, le tribunal d'Annecy condamne un homme de 66 ans qui a récemment commandé sur Internet une poupée sexuelle à l'allure d'enfant. Et puis la France ne s'est pas encore débarrassée de la grippe. L'épidémie reste très active. Le nombre de cas augmente chez les enfants et les adolescents et cela peut entraîner une hausse des cas chez les adultes dans les prochains jours.
France Info.
Quand la modernité met des vies en danger en Chine, pays champion des voitures électriques, le gouvernement vient de rappeler les fabricants à l'ordre sur les normes de sécurité des portières. En cause, des poignées escamotables automatiques qui équipent aujourd'hui la quasi-totalité des véhicules. Problème lors d'un accident ou d'une panne électrique, eh bien, ces poignées peuvent empêcher l'ouverture du véhicule. Le gouvernement demande donc, Sébastien Berriot, au constructeur, de rétablir les bonnes vieilles poignées mécaniques à partir de janvier 2027.
Ce Pékinois au volant de sa vieille Citroën à essence est un automobiliste rassuré. Avec ses poignées de porte entièrement mécaniques, il ne risque pas d'être coincé dans sa voiture.
Il est préférable d'utiliser des poignées mécaniques. Si c'est automatique, c'est plus esthétique, mais il y a moins de sécurité.
Moins de sécurité, c'est ce qui inquiète le gouvernement chinois. Les poignées escamotables qui affleurent la carrosserie sont, c'est vrai, particulièrement belles et pratiques. Une simple pression sur un bouton permet de faire sortir la poignée, mais les constructeurs n'avaient pas pensé au danger en cas d'accident, explique Chui Dongshu, expert automobile.
En cas d'accident, le système électrique du véhicule peut tomber en panne et empêcher la porte de s'ouvrir. Et bien sûr, si les secouristes ne peuvent pas ouvrir les portes, cela retarde les opérations de sauvetage. On n'avait jamais imaginé que le danger de ces poignées automatiques pouvait être aussi grave.
Ce jeune homme, propriétaire d'un gros 4x4 électrique de la marque chinoise NIO, n'avait pas imaginé le risque pour sa sécurité.
Moi, en cas de danger, je briserai la vitre pour m'échapper.
Alors entraîné par une concurrence extrême dans le secteur du véhicule électrique, les fabricants chinois ont-ils négligé la sécurité ? C'est ce que pense cette Pékinoise au volant de sa Xiaomi électrique.
Je pense que les véhicules électriques peuvent intégrer un peu d'innovation, mais leur rythme de développement n'a pas besoin d'être aussi rapide. Heureusement, notre gouvernement a pris conscience de ce problème et a introduit une nouvelle réglementation pour y remédier. Notre priorité doit être la sécurité et l'esthétique doit venir en second.
Les fabricants vont donc devoir revoir leurs poignées en intégrant un système de déverrouillage mécanique obligatoire sur les futures voitures neuves. Le coût de ce changement dans les chaînes chaîne industrielle n'a pas encore été chiffré, mais il risque de peser sur les finances des constructeurs chinois, dont beaucoup sont déjà en difficulté.
France Info, reportage en Chine, signé Sébastien Berriot. 5h24, on part pour le Monde d'Élodie. Avec un très grand romancier ce matin.
Bonjour Pierre Lemaître.
Bonjour.
Vous êtes cet auteur né passionné par les romans feuilletons, celui qui aime embrasser l'histoire par ses angles morts. Et en même temps, vous êtes cet auteur né tardivement, autodidacte. Vous avez pourtant essuyé beaucoup de refus au début de votre carrière. C'est important de le préciser, c'est avant de vous imposer avec le polar et votre série Verhoeven, et plus tard avec un roman picaresque et pas historique, Au revoir là-haut. Ouais. Prix Goncourt en 2013, César de la meilleure adaptation pour la transposition, justement, que vous avez réussi à en faire sur grand écran avec à vos côtés Albert Dupontel. Avec ce parcours et votre maîtrise de plusieurs styles littéraires, vous êtes devenu un auteur à succès très attendu. Encore plus avec votre saga du XXe siècle, entamée en 2022. Il y a eu Le Grand Monde, Le Silence et la Colère, Un Avenir Radieux. Et aujourd'hui paraît enfin le petit dernier, Les Belles Promesses. Est-ce une émotion pour vous d'ailleurs de laisser de côté des personnages ?
Je vais vous dire, c'est pas trop difficile de laisser les personnages parce que les personnages romanesques, ils ont un potentiel narratif. Et quand on fait 4 aventures avec eux, bon, d'une certaine manière, on les a quand même un petit peu épuisés. Donc je pense qu'ils sont arrivés en bout de course. On arrive tous à peu près au même moment sur la ligne d'arrivée. C'est plutôt équilibré et harmonieux.
On comprend que ces personnages, ils ne sont pas que romanesques. Ils font partie de vous, soit parce qu'ils ont été représentés par des personnes qui étaient autour de vous, mais en tout cas, il y a une véracité dans tout ce que vous racontez qui perturbe, en quelque sorte.
J'ai jamais écrit très proche de moi. Mais vous avez raison, Élodie, c'est ce qui est frappant, c'est qu'avec le recul, je me rends compte que beaucoup, beaucoup de choses de moi sont passées dans les personnages. Simplement, elles sont relativement bien masquées. Alors, c'est pas une question de pudeur, c'est plutôt que sur ma vie, j'ai pas énormément de choses à dire. En fait, le plus intéressant de ma vie, c'est dans mes romans, quoi. Voilà.
Bon, là, nous sommes en 1963. Oui. Les personnages sont toujours aussi forts dans ce qu'ils ont de vrai, avec d'un côté la famille Pelletier. Il y a également Manuel Ramos, un Français, et il est aussi fils d'immigrés. Et l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'il y a ce besoin de réussir, mais il y a toujours cette excuse d'exister presque.
Oui, 63, vous voyez, c'est donc l'acmé des 30 Glorieux, c'est un moment où l'immigration en France est relativement importante. On a connu des vagues d'immigrés, et chaque génération d'immigrés s'intègre. Et là, on a affaire avec Manuel à une seconde génération. Il est français, mais il est français fils d'immigrés. Et donc ça crée une situation un petit peu compliquée, c'est qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est plus espagnol, il n'est pas encore intégré français, et tout l'effort professionnel qu'il fait autour de la ferme qu'il a pris en fermage, tout son effort, c'est avant tout un effort d'intégration. Il ne demande qu'une seule chose, c'est d'être comme les autres.
Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, Pierre Lemaître. C'est là où vous mettez le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'on est en 1963, c'était il y a 60 ans, et on se prend ça en boomerang en plein milieu du visage, et on se dit, mais c'est pas possible que personne n'ait anticipé ça, que l'individualité ait pris le pas sur le collectif.
Les 30 Glorieuses ont plusieurs particularités, mais l'une d'entre elles, c'est d'être le moment où l'individualisme contemporain va commencer à monter en charge. Aujourd'hui, on est client d'à peu près tout. Les parents d'élèves sont clients de l'école, ils estiment qu'ils ont des droits, comme ils achèteraient des droits dans une entreprise. Ils ont acheté un produit avec leurs impôts qui s'appelle l'éducation nationale, et en échange, ils doivent avoir des enfants qui ont des diplômes et qui deviennent des individus employables. C'est assez dingue de le formuler comme ça, mais c'est une réalité. Ce clientélisme-là, qui vient donc vraiment en lutte dans toutes ces années-là contre un très fort désir de service public, les années 60 sont vraiment prises en étau entre cette demande de service public qui est, depuis l'après-guerre, la gloire du pays, ça fonctionne bien le service public dans les années 60, et en même temps une montée terrible de l'individualisme.
Il y a ce côté Hugo que vous avez toujours porté, d'ailleurs vous le remerciez dès le départ Balzac, parce que c'est cette écriture-là. Ce sont des auteurs qui se sont toujours intéressés justement aux liens sociaux. Ça c'est important pour vous de le préciser, parce que c'est la clé.
Oui, c'est la clé, vous avez raison, parce que la passion que j'ai pour Hugo, c'est cette idée que cet homme qui est relativement privilégié, comme je suis un privilégié de la société, garde quand même un œil vif et pénétrant sur le fait que la société dans laquelle il est un privilégié comprend beaucoup de gens qui ne le sont pas et beaucoup de gens malheureux, des misérables. Et donc ça, c'est cette attention permanente au social, c'est quelque chose avec laquelle j'ai été élevé. Donc moi, quand j'écris, avant tout, je veux distraire, mais je pense que la distraction peut aussi aller avec l'apprentissage de quelque chose, et j'espère que les lecteurs, sur le plan social, vont comprendre un certain nombre de choses et les mettre peut-être aussi en relation avec ce qui nous arrive aujourd'hui.
Vous qui êtes traduit en plus de 43 langues aujourd'hui, ça fait quel effet, ça, Pierre Lemaître ? Comment vous le vivez, ça ?
Écoutez, je pense qu'on n'est jamais assez émerveillé par l'existence. De temps en temps, vous savez, 10 ans après, 12 ans après, je me réveille de temps en temps et je me dis, mon Dieu, J'ai pris Goncourt. Enfin, j'y crois pas moi-même. Oui, c'est assez merveilleux. Alors, en même temps, j'ai une responsabilité. J'essaye de faire en sorte de payer mon écho à cette société qui, moi, m'a gâté. Mais mon écho à la société qui m'a gâté, c'est de parler de ceux que la société ne gâte pas.
Ça s'appelle Les Belles Promesses. Merci beaucoup, Pierre Lemaitre.
C'est moi qui vous remercie.
Dans Le Monde, Élodie, sur France Info. C'est donc le dernier volet de votre tétralogie des années glorieuses. Merci beaucoup.
Merci encore.
Et merci, Élodie Suigo. Le Monde d'Élodie, c'est à retrouver sur l'application Radio France. C'est l'heure de jeter un coup d'œil au ciel.
France Info Météo, avec l'alarme Vérissure, dissuasion, détection, vérification et mise en fuite, pour une protection complète jour et nuit. Devis gratuit sur Vérissure.fr.
Christine Peña, dans ce ciel, le défilé des perturbations qui se poursuivent.
Oui, il s'en passe des choses. Nous entamons vraiment une nouvelle période de perturbations. Elles s'enchaînent assez rapidement aujourd'hui et demain avec du vent qui sera très fort. D'ailleurs, demain, il est pas mal aujourd'hui, hein, le vent. De la neige également, dès la moyenne montagne et des pluies. Alors, les pluies les plus soutenues aujourd'hui, c'est vraiment autour des Cévennes de nouveau. Hein, c'est dans le sud que ça se complique. Le courant océanique repousse quand même le front froid qui aimerait bien s'inviter en France, mais qui fait du surplace sur le nord-est uniquement, où on a encore quelques gelées du côté de la Lorraine, de l'Alsace, également Franche-Comté. Le week-end prochain sera un peu plus calme, surtout sur la moitié nord pour samedi, où le soleil devrait s'imposer. Des pluies encore pour le sud. Les températures vont baisser un peu. Et pour la semaine prochaine, bah, c'est toujours pas très clair. Hein, le scénario d'un temps très perturbé, sans prendre le pas quand même sur une éventuelle vague de froid intense.
Merci beaucoup Christine Peña, à suivre sur France Info d'ici 6h. L'audition du couple Moretti, les gérants du bar de Cran Montana, qu'ont-ils dit aux enquêteurs? C'était la première fois qu'ils étaient interrogés sur le fond de l'affaire sur cet incendie en Suisse. Réponse dans 10 minutes. À venir aussi France Info Municipale, focus sur le train. C'est l'un des enjeux de la campagne avec des villes qui essayent de se désenclaver. Et puis évidemment le Groenland qui est à la une d'un nouveau point sur l'info à 5h30. Bienvenue.
France Info. William Gay Costa.
Avec ce nouveau retournement de situation, finalement, Donald Trump a évoqué cette nuit un accord. Il dit avoir un cadre pour un accord avec l'OTAN après s'être entretenu avec le patron de l'Alliance Atlantique, alors que le président américain venait déjà dans l'après-midi d'exclure l'usage de la force pour s'emparer du territoire danois de l'Arctique. Il annonce également désormais lever les droits de douane qu'il comptait imposer, 10% de droits de douane qu'il comptait imposer à certains pays européens qui s'opposent à ce projet sur le Groenland, dont la France. Nous allons y revenir longuement avec un dossier sur France Info. Dans 5 minutes, vous entendrez la réaction de la députée européenne Nathalie Loiseau. Pour la première fois, les médias officiels iraniens donnent un bilan humain de la vague de manifestations qui a eu lieu dans le pays. Plus de 3100 morts, les trois quarts étant, selon les autorités, des membres des forces de sécurité. Le bilan est donc très différent de celui fourni par l'ONG de référence Iran Human Rights, qui annonce à minima 3500 morts parmi les manifestants, et c'est un bilan très partiel dans seulement une partie des régions du pays. Que se passe-t-il à l'école nationale vétérinaire d'Alfort, près de Paris, l'une des 4 écoles vétérinaires du pays, institution qui forme chaque année des centaines d'étudiants? La cellule investigation de Radio France révèle que 3 jeunes femmes, 2 étudiantes et une enseignante de cette école, se sont suicidées depuis la rentrée. Marie Dupin, vous avez également recueilli le témoignage du père d'une de ces étudiantes qui a mis fin à ses jours en septembre. Il appelle les autorités à agir.
Oui, et pour ce père, l'urgence est absolue, car en mai dernier, un rapport dressait un constat alarmant. 250 étudiants vétérinaires dans les 4 écoles nationales affirmaient avoir eu des pensées suicidaires dans les 15 derniers jours, en cause notamment pression, sélection, surcharge de travail, une situation insupportable pour ce père de famille.
Depuis mai dernier, en fait, les autorités, elles savent d'une manière certaine que de nombreux étudiants sont en danger. Rien qu'à Alfort, il y a eu 3 suicides depuis la sortie du rapport. Donc c'est vraiment urgent. L'État a une obligation de devoir, c'est celle d'assurer leur sécurité.
Face à cette situation, il en appelle directement à Matignon, à qui il demande dans un courrier la mise en place d'une équipe d'experts des situations de crise, indépendamment des directions d'école.
Il faut qu'il y ait des personnes qui connaissent ce type de situation de crise sanitaire puissent intervenir directement auprès des étudiants qui ont peur de parler. Moi, aujourd'hui, je veux m'adresser aux étudiants vétérinaires dont certains sont dans une telle situation de souffrance qu'ils peuvent à tort penser qu'il n'y a pas d'autre solution que de se suicider. N'agissez pas ainsi, votre vie est précieuse et n'infligez pas une telle dévastation à ceux que vous aimez.
Un message aussi aux parents qui doivent, selon lui, se mobiliser pour que cette situation cesse.
Marie Dupin de la cellule Investigation de Radio France, on retrouve votre enquête complète sur franceinfo.fr. Les autorités sanitaires étaient au courant depuis au moins 5 jours avant le rappel annoncé hier de boîtes de lait infantile Picot, fabriquées par le groupe Lactalis. D'après les informations de Radio France, la Direction Générale de l'Alimentation avait connaissance dès vendredi dernier de la présence d'une toxine, mais elle assure que les premières analyses ne révélaient pas de quantité inquiétante. Et puis dans cet océan de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, allez, en voilà une bonne. On vit de plus en plus longtemps en bonne santé en France. C'est ce que révèle une étude de la DRES, la Direction de la Statistique Publique. L'espérance de vie sans incapacité, c'est important, a augmenté de près de 2 ans depuis 2008 pour les hommes comme pour les femmes. Et l'écart d'ailleurs, Anne Lordanier, est en train de se réduire entre les deux sexes.
Alors attention, il y a toujours un écart énorme entre l'espérance de vie des femmes, plus de 85 ans, et celle des hommes, 80 ans. Mais quand on regarde la qualité de ces années de vie supplémentaires, il n'y a plus autant de différence. La durée de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans être limitée dans ses activités par un problème de santé, atteint presque 77 ans pour les femmes et 75 ans et demi pour les hommes, notamment grâce au progrès de la médecine. Et si les hommes continuent de vivre moins longtemps que les femmes, c'est parce qu'ils sont plus souvent atteints par des maladies mortelles, des infarctus, des cancers. Les femmes ont plus souvent des troubles musculo-squelettiques, l'arthrose par exemple, plus de dépression, des maladies qui impactent leur qualité de vie, mais qui ne sont pas mortelles.
Merci beaucoup Anne-Laure Danier, merci à tous d'écouter France Info, il est 5h35.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Il s'est montré très menaçant ces dernières semaines, mais Donald Trump est-il en train de mettre de l'eau dans son vin sur le dossier groenlandais? Après avoir exclu hier dans l'après-midi qu'il utiliserait la force pour s'emparer du territoire danois de l'Arctique, finalement le président américain a en plus levé ses menaces de droits de douane sur les pays européens qui s'opposent à lui. Donald Trump annonce un cadre pour un accord avec l'OTAN. Folle journée entre inquiétude et soulagement qu'ont vécu les Groenlandais. Otilia Ferré, vous êtes justement notre correspondante au Groenland et vous avez suivi cette journée d'ascenseur émotionnel pour les habitants de l'île Arctique.
Les Groenlandais ont un peu la tête qui tourne. La journée avait commencé par des larmes montées aux yeux de la Groenlandaise Mia Chemitz au moment où Donald Trump avait pris la parole à Davos.
I don't know anyone in Greenland who doesn't feel...
Je ne connais personne au Groenland qui ne soit pas angoissé. On se prépare tous à une possible invasion américaine. L'angoisse me fait réagir à la moindre déneigeuse et je me dis alors, où est mon arme?
Le président américain avait déclaré qu'il ne souhaitait pas user de la force au Groenland, ce qui avait tout de même rassuré un petit peu Avara Colsen, la maire de Nuuk, la capitale.
Je suis très préoccupée par la manière dont il continue de parler du Groenland comme d'un objet qu'il pourrait acheter ou convoiter. Donc même si je me suis sentie soulagée, j'ai encore des inquiétudes.
Dans la foulée du discours du président américain, le gouvernement groenlandais avait présenté une brochure de crise à la population, un genre, je cite, de police d'assurance composée de stocks d'armes et de nourriture à avoir chez soi. Nombreux étaient ceux à avoir fait des provisions au supermarché, comme Gabriel, les mains remplies de bougies.
Elles servent à tenir chaud et nous permettent de nous nourrir, à condition d'avoir un réchaud de camping, et j'en ai à la maison. Je pense acheter des plats faciles à préparer, comme des œufs. C'est au cas où ils se passerait quelque chose d'inquiétant.
Mais dans la soirée, énième retournement de situation, avec cette annonce de Donald Trump, une nouvelle fois, disant avoir trouvé un deal avec l'OTAN sur le Groenland. Ivana est loin d'être totalement rassurée.
Je veux dire, c'est une bonne nouvelle. Peut-être que les choses vont aller dans le bon sens, j'espère. Mais un jour, il dit une chose et puis le lendemain, son contraire, on ne peut jamais lui faire confiance.
Un épuisement mental général, c'est ce que ressentent bon nombre de Groenlandais à leur actuelle.
France Info, reportage au Groenland signé Otilia Ferré. Alors après l'annonce par Donald Trump d'un projet d'accord avec l'OTAN sur le Groenland, comment interpréter tout cela? Est-ce un revirement? Est-ce un coup de bluff? En tout cas pour Nathalie Loiseau, députée européenne, secrétaire nationale du parti Horizon à l'international, c'est le signe que la fermeté des Européens ces derniers jours a payé.
On sait que Donald Trump n'a pas d'alliés. Il a des partenaires pour faire des deals de court terme. Donc clairement, pour lui, l'Alliance Atlantique, c'est plus un embarras, sauf si ça peut être un lien de, j'allais dire, de seigneur à ses vassaux. Ceci étant, derrière la rhétorique inutilement blessante, désagréable que Donald Trump a de manière systématique vis-à-vis de l'Europe, qu'est-ce qui s'est passé d'important aujourd'hui ? C'est que Donald Trump recule. Il a d'abord concédé qu'il ne prendrait pas le Groenland par la force. Et puis ce soir, sur les réseaux sociaux, il indique qu'il n'imposerait pas de droits douane supplémentaires aux Européens. Ça veut donc dire qu'en réalité, il se dégonfle. Et il tire prétexte de sa conversation avec le secrétaire général de l'OTAN, l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte, pour dire « on est sur le point d'avoir un accord, je vais avoir tout ce que je voulais pour le Groenland ». Et il ne va pas avoir la souveraineté du Groenland. Donc en réalité, il recule parce que les Européens ont réussi à montrer leur fermeté, à donner des signaux très clairs, parce que les milieux économiques ont donné des signaux très clairs. Aujourd'hui, plusieurs fonds de pension européens ont indiqué qu'ils étaient sur le point de vendre leurs bons du trésor américains, et parce qu'aux États-Unis même, il n'est pas suivi par le Congrès. Et je voudrais aussi que l'on évite de retomber trop vite dans une forme de lâche soulagement. Donald Trump a une méthode de négociation qu'il commence toujours par promettre le pire. Il renverse la table et finalement on est soulagé quand il n'a pas cassé la vaisselle. On en est à se dire que c'est une bonne nouvelle que notre ancien allié américain ne veuille pas envahir un territoire qui appartient à un pays européen. On en est là. On en est à se dire que c'est une bonne nouvelle que, au-delà des 15% de tarifs douaniers qu'il nous impose déjà, il n'en rajoute pas davantage. Alors, il faut dire aussi que le Parlement européen avait décidé de suspendre la ratification de l'accord commercial avec les États-Unis tant que Donald Trump menaçait la souveraineté danoise sur le Groenland. Donc, c'est sa méthode. Il commence toujours par annoncer le pire. Retenez-moi où je fais un malheur. Et puis finalement, quand il fait beaucoup moins que ce qui était annoncé, on a tendance à s'assoupir et à se dire on verra pour la prochaine crise. Arrêtons d'être en panique quand Donald Trump dit quelque chose et soulagés quand ils disent le contraire. Les Européens ont bien joué cette séquence. Ils ont montré de la fermeté et Donald Trump recule. Mais il ne faudrait pas que les Européens reviennent à leurs habitudes antérieure parce que le monde a changé.
La députée européenne Horizon Nathalie Loiseau qui répondait sur France Info à Julien Langlais. C'est la première fois qu'ils ont été interrogés sur le fond de l'affaire. Jacques et Jessica Moretti, couple français qui a dû s'expliquer ces dernières heures devant la justice suisse après l'incendie dans leur bar à Crans-Montana le soir du réveillon dans cette station de ski huppée avec un bilan, on le rappelle, de 40 morts et de 116 blessés. Bonjour Aurélien Tirard.
Bonjour.
Service police-justice de France Info, l'interrogatoire a duré de longues heures.
Oui, d'après plusieurs personnes qui ont participé à cette audition, les interrogatoires ont été très denses. 8 heures pour lui, 10 heures pour elle. Il faut dire que les procureurs avaient de très nombreuses questions à leur poser. Les deux gérants du Constellation ont dû s'expliquer d'abord sur le respect des normes de sécurité. Tous les deux l'affirment, le personnel du bar avait bien été formé. Mais, selon eux, certains employés ont oublié les consignes d'évacuation à appliquer en cas d'incendie. Et à propos de ces fameuses mousses acoustiques soupçonnées d'être à l'origine de l'incendie, Jacques Moretti l'assure, il avait testé dès 2015 la résistance au feu de cet isolant, sans que cela ne l'alerte, une mousse qu'il avait lui-même installée sur le plafond du sous-sol de son bar. De son côté, Jessica Moretti l'affirme face au procureur, si elle se trouvait bien dans son bar au moment de l'incendie, elle n'a pas fui avec la caisse remplie d'argent, comme l'a pourtant écrit la presse italienne.
Et de nombreux avocats de victimes ont assisté à ces deux jours d'audition, tous d'ailleurs n'ont pas pu être dans la salle d'audience.
Oui, ils étaient une trentaine d'avocats de partie civile à pouvoir intervenir, poser des questions lors des interrogatoires, chose que l'on ne voit d'ailleurs jamais en France. Et beaucoup d'entre eux ont dû suivre les auditions depuis une salle de retransmission dans le palais de justice. Au terme de ce marathon, Romain Jordan, qui assiste plusieurs familles de victimes, en ressort avec un sentiment mitigé.
Des débuts de réponse, mais malheureusement un sentiment quand même de frustration en tant que les parties plaignantes n'ont pas pu poser l'intégralité de leurs questions. Il est aussi important que rapidement le banc des prévenus soit complété par les autres personnes responsables de ce drame. Mes clientes considèrent que la commune a une responsabilité dans ce drame et qu'en son sein, plusieurs personnes vont devoir en répondre.
Cet avocat parle évidemment de la commune de Crans-Montana qui s'est portée partie civile très peu de temps après l'incendie début janvier. Une décision que de nombreux avocats de victimes jugent inappropriée.
Et Aurélien, vous avez pu échanger avec l'avocat de Jacques Moretti à l'issue de ces deux jours d'audition. Lui aussi veut que des représentants de la commune soient désormais entendus.
En effet, maître Patrick Michaud exige que les élus de Crans-Montana apportent des réponses, qu'ils ne fuient pas leurs responsabilités. L'avocat assure, dans le même temps, que face au procureur, Jacques Moretti n'a, je cite, « rien éludé ». Il a, selon lui, parfaitement collaboré. D'après l'avocat suisse, le gérant corse se sent responsable de ce qui s'est passé dans son établissement. Pendant l'audition, il a, selon maître Patrick Michaud, présenté à nouveau des excuses aux victimes et à leurs familles. Hier soir, Jacques Moretti est reparti en prison. Il espère toujours être libéré sous caution.
Merci Aurélien. Tirard, rouvrir des lignes de train pour désenclaver les villes, récupérer les maisons abandonnées pour redynamiser les communes. France Info Municipale, c'est dans un instant, après un nouveau tour complet de l'actu.
France Info. 5h-6h.
Et à la une, à 6h moins le quart, Maureen Suignard de l'Info en une minute, Donald Trump qui lève ses menaces de taxes.
Il renonce à augmenter les droits de douane au 1er février pour les pays qui tenteraient de s'opposer à la prise du Groenland par les États-Unis. Le président américain assure que le cadre d'un accord a été trouvé sur le Groenland, mais le secrétaire général de l'OTAN a ensuite affirmé qu'il n'avait pas discuté avec Donald Trump au sujet de la souveraineté du territoire danois. Un tireur est recherché à Nice. Hier en fin de journée, une femme âgée d'environ 25 ans a été tuée par balle alors qu'elle circulait dans sa voiture avec son bébé. Il n'a pas été touché. On ne sait pas pourquoi elle a été visée. À partir de ce matin et pour la troisième année de suite, certains navires ont l'interdiction de pêcher dans le golfe de Gascogne. Mesure en vigueur jusqu'au 20 février prochain pour protéger les dauphins. Il y a eu 60% de captures en moins l'hiver dernier grâce à cette mesure. Et puis mauvaise soirée pour l'OM, battu 3-0 par Liverpool à domicile en Ligue des Champions de football. Ils devront aller chercher leur place pour les barrages mercredi prochain lors de leur match à Bruges.
France Info, Municipal 2026.
C'est l'un des enjeux justement pour les centres-villes et pour les communes à l'approche du vote pour les municipales. Focus ce matin sur les milliers de maisons à l'abandon que l'on trouve dans notre pays. Bonjour Farida Noir.
Bonjour.
Le Sénat examine depuis mardi une proposition de loi qui est portée par le groupe Les Républicains et qui compte raccourcir les délais d'acquisition de ces biens pour permettre aux communes de les récupérer plus rapidement, alors que de nombreux maires cherchent des solutions pour loger des habitants. Farida, vous êtes partie dans la Manche à la découverte de ces maisons oubliées.
Alors, on m'a dit qu'il y en avait une ici, une maison abandonnée, dans un petit lieu-dit qui s'appelle la planche jumelle. Ça y est, je la vois. Ça se voit que plus personne n'habite ici depuis longtemps.
Il y a des années.
Vous appelez comment ?
Daniel.
Daniel. Ouais. Daniel, vous habitez la planche jumelle depuis longtemps ?
35 ans.
Alors, cette maison que j'ai vue...
Il y a quelques années, c'était des Parisiens qui avaient ça. Je pourrais même pas vous dire le nom de ces gens-là. C'était une maison secondaire.
Ah, elle est envahie par les ronces, on la voit presque plus, cette maison.
Ouais, vraiment abandonnée.
Alors des maisons comme celle-là délaissées depuis des années, souvent en milieu rural, on en trouve dans la Manche, un peu partout en France en fait. Et maintenant, direction Donville-les-Bains, la maire Gaëlle Fagnan vient justement de récupérer une maison abandonnée.
C'est une maison qui est à l'abandon, avec des graffitis dessus, avec de la végétation qui a pris toute sa place, avec une toiture qui est à l'abandon.
La mairie a découvert l'existence de cette bâtisse, alertée par des voisins car elle posait des problèmes de sécurité.
Comme il y a un petit balcon, là, vous le voyez, en fait, il commençait à y avoir du danger. Et il y avait la balustrade qui était en train de tomber. Donc on a été tenu d'intervenir pour sécuriser l'endroit.
Elle contacte donc les notaires et découvrent que les héritiers ne trouvent aucun accord entre eux et ça fait 30 ans que ça dure. Conséquence, cette maison est donc considérée comme un bien sans maître car personne n'en revendique la propriété. Depuis le 15 janvier, elle appartient donc officiellement à la commune. Donc qu'est-ce qu'elle va devenir cette maison maintenant qu'elle appartient à la commune de Donville ?
Alors écoutez, les problématiques de logement qu'on a sur le territoire nous invitent évidemment à ce que cette maison devienne de nouveau un logement habitable.
Une proposition de loi examinée au Sénat veut accélérer ce type de procédure. L'acquisition ne se ferait plus au bout de 30 ans mais de 15 pour permettre aux communes de récupérer ces maisons plus facilement.
J'ai envie de dire entre 10 et 15 ans, en tout cas on est loin des 30 ans où là vraiment un bâtiment qui n'est pas habité se dégrade énormément. Entre 10 et 15 ans, je dirais que ça reste quand même une période raisonnable. Ça permet aussi de rendre le bâtiment suffisamment attractif pour qu'il n'y ait pas encore trop de travaux à faire dessus et que justement de nouveaux propriétaires puissent se déclarer.
À 300 mètres, une autre maison, elle aussi inhabitée. Cette fois, la commune n'en est qu'au début des démarches.
C'est une jolie maison en pierre.
Et elle est abandonnée depuis combien d'années à votre connaissance ? Vous ne savez pas du tout ?
Je ne sais pas. Justement, il y a une forme d'enquête policière pratiquement à essayer de déterminer à qui appartient cette maison. C'est une belle énergie à dépenser, d'autant plus que, on l'a dit, tous les biens qui sont vacants, il faut qu'on arrive à les remettre dans le circuit du marché immobilier. On a tellement besoin de logements.
Et il y en a encore une troisième dont la mairie doit aussi s'occuper.
Et Farida, toujours dans la Manche, à Courtil, cette fois le maire a lui lancé un avis de recherche l'an dernier pour une maison délaissée. Il a retrouvé le propriétaire, c'est un Anglais, mais rien n'est réglé pour le moment.
Oui, une maison que Bernard Lair me fait visiter.
On a les briques de lait qui datent de péremption d'octobre 2005. Il y a les lits sont là-haut, tout est resté comme s'il partait en urgence.
Alors ce propriétaire, pourquoi il est parti du jour au lendemain comme ça ?
Il avait une compagne, ils se sont séparés, il ne veut plus venir là.
Voilà donc qui explique pourquoi la maison est abandonnée depuis 20 ans, mais le propriétaire, retrouvé l'an dernier, n'a toujours pas dit ce qu'il voulait en faire. Et le problème, c'est que cette séparation pose de gros soucis.
Elle devient dangereuse. On prend le garage à côté, on a des trous, les ardoises tombent dans la rue plus ou moins. Pas moi, un squatteur ou quelque chose, il fout le feu là-dedans. Il y a des risques pour les autres.
Alors, il y a un deuxième problème, c'est que cette maison, elle vous a coûté de l'argent.
Disons, l'employé communal, 20 heures par an sur 15 ans, soyons modestes, on lui fait cadeau de 5 ans. Ça fait 6 000 euros.
Il a fait quoi, l'employé communal ?
Il a débroussaillé tout le terrain derrière.
Sans compter les impôts fonciers impayés, en tout 14 000 euros.
Donc c'est un coût pour l'État aussi.
Cette maison, pour l'instant, vous l'avez encore sur les bras, quoi.
Ça fait une verrue dans le bourg.
Pour le maire, raccourcir les délais d'acquisition des biens sans maître de 30 à 15 ans est encore insuffisant.
Si c'était plus court, ce serait encore mieux. Il y aurait moins de biens abandonnés.
Parce que vous avez besoin de logements sur la commune.
Toujours un manque de logements.
En attendant, la commune a instauré depuis l'an dernier une taxe sur les logements vacants. Toute maison inoccupée depuis 5 ans est désormais imposable. Tout ça pour inciter les propriétaires ou les héritiers à vendre ou à rénover leur habitat.
Merci beaucoup Farida Noir pour le choix de France Info. Un autre enjeu important pour ces municipales de mars, les transports. Là aussi c'est important pour dynamiser les communes désertées par les commerces et par les habitants. Et le train peut peut-être aider en rouvrant des lignes pour désenclaver les communes. C'est ce qui a été fait à Neufchâteau, c'est dans les Vosges. Depuis un an maintenant, les 7000 habitants sont reliés directement par train intercité à Lyon. La ligne avait été précédemment fermée en 2018, Guillaume Fariol.
Lucie sort de la petite gare de Neufchâteau à la main, un billet pour Lyon qu'elle vient de s'acheter. Elle fait 3 fois l'aller-retour chaque mois pour raison familiale. La réouverture de la ligne directe lui a changé la vie. Terminé le changement de train à Dijon.
Vraiment, c'est fantastique quoi. Je n'ai plus peur parce que très souvent j'avais peur de perdre la correspondance et je devais sûrement dormir dans un hôtel. Là, c'est plus le cas. Nous voyons que les choses sont en train d'aller dans le bon sens.
Même enthousiasme de Marie, 20 ans, étudiante.
Moi, je voyage beaucoup, par exemple, dès que je dois aller à Paris, forcément, il y a 10 000 changements, etc. C'est assez compliqué. Donc, s'il y a de plus en plus de villes qui sont accessibles, c'est mieux. Pour les offres d'études, souvent, on choisit Nancy par dépit parce que c'est la plus proche, c'est la plus accessible, etc. Donc, je pense que pour les gens qui veulent des études plus poussées, ce serait, oui, effectivement, une belle opportunité.
Bref, ces trains jusqu'à Lyon, 2 allers-retours par jour désormais, peuvent aider la ville à attirer du monde. Elisabeth Jandot, de l'Association des usagers du rail de Neufchâteau, en est convaincue. Elle s'est battue pendant des années pour la réouverture de la ligne.
Une ville qui n'a pas de connexion
pollution directe, elle n'attire pas les habitants. Il y en a qui risquent de partir, alors que quand on a de bonnes connexions, les gens peuvent s'installer, les étudiants peuvent aller faire leurs études, voyager par le train, c'est quand même pratique.
Mais dans le centre-ville, des rues restent désertes, commerces fermés, affiches à louer, défraîchies, placardées sur des rideaux de fer. Delphine tient une boutique de cosmétiques. Elle se félicite de la réouverture de la ligne de train.
Pourquoi pas ? C'est bienvenu, ça, c'est sûr.
Mais il en faudra plus, à l'en croire, pour sauver le centre-ville.
C'est catastrophique. Tous les jours, on apprend des nouvelles boutiques qui vont fermer, qui ne sont pas là depuis très longtemps, bien souvent. Mais pour moi, la solution, c'est de mettre en avant et d'aider ces petits commerçants.
En les aidant, par exemple, à payer leur loyer après leur installation, insiste Delphine. Sinon, train ou pas, le centre-ville continuera de dépérir, prévient cette commerçante.
France Info reportage dans les Vosges, signé Guillaume Fariol. Elle fait son retour, elle ne nous avait pas franchement manqué. La tectonique dans la playlist de France Info qui arrive juste après l'actu écho. Bonjour Emmanuel Cuny.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec Banque Populaire. Engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Actu Éco en trois titres. Voilà le premier. Dunkerque projette d'investir dans la production de carburant pour l'aviation.
Oui, le port de la ville côtière du Nord vient de dévoiler un projet du groupe français d'ingénierie et de services Technip Énergie. Il prévoit de construire et d'exploiter une usine de carburant d'aviation durable, le SAF en anglais. L'investissement prévu s'élève à 1,7 milliard d'euros. Une fois abouti, ce projet est censé créer 300 emplois équivalents temps plein à Dunkerque. Le dossier est en phase de finalisation pour obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités publiques.
L'enseigne de décoration Bouchara demande sa mise en redressement judiciaire.
Oui, les magasins connus pour le linge de lit et les textiles de maison cherchent un repreneur. Le groupe explique rencontrer des difficultés en raison d'un marché compliqué. Les ménages dépensent moins dans ce secteur qui, parallèlement, doit affronter la concurrence asiatique à bas prix, mais aussi le commerce en ligne. Bouchara dispose aujourd'hui d'un réseau de 52 magasins en France métropolitaine. L'enseigne emploie quelque 540 salariés. Alors si le tribunal de commerce de Paris accepte ce placement en redressement judiciaire, s'ouvrirait alors une période d'observation de 6 mois pour permettre à l'entreprise en cessation de paiement de chercher de potentiels repreneurs.
Il y a des difficultés aussi pour le géant français des jeux vidéo Ubisoft.
Oui, l'entreprise prévoit une perte d'1 milliard d'euros sur son exercice 2025-2026. Ubisoft invoque l'annulation et le décalage de plusieurs titres de jeux ainsi que le report de certains partenariats. Empêtré dans des difficultés financières depuis plusieurs années, le géant français des jeux vidéo a décidé de se doter d'une nouvelle organisation pour être plus compétitif.
Emmanuel Cuny, dans une demi-heure, ce sera votre brief éco.
Elon Musk va-t-il racheter Ryanair ? La rumeur court, une passe d'armes vient de s'engager entre le milliardaire américain et le patron de la compagnie aérienne irlandaise à bas coût, Michael O'Leary. Mais pas sûr que Musk en sorte vainqueur.
Merci beaucoup Emmanuel Cuny. À 5h56, c'est l'heure de la playlist de Maureen Suignard. Et Maureen, ce matin, le retour d'un phénomène.
Certains auraient préféré qu'il tombe dans les oubliettes de l'histoire. Mais accrochez-vous bien, William, la tectonique est de retour.
Oh là là.
Cette musique de Mondotech nous fait replonger 20 ans en arrière. Petit rappel, la tectonique est d'abord une danse qui a été popularisée lors des soirées du Métropolis, un club de Rungis en Ile-de-France. Et cette danse à l'allure désarticulée est décrite de cette manière à l'époque sur France 3.
Un déhanché à la Travolta, des bras qui moulinent non-stop, un jeu de jambes à faire pâlir de jalousie à un boxeur professionnel et de l'énergie à revendre. Voilà les ingrédients de la tectonique.
Souvenez-vous, William, il ne fallait pas danser trop près les uns des autres.
On risque de se prendre un taquet,
exactement. Exactement, et il fallait avoir de l'énergie en effet pour suivre ces beats électro rapides, ces mélodies très énergiques. Et pour être un vrai de vrai, il fallait aussi un look androgyne, jeans slim, des accessoires fluo, les cheveux rasés sur les côtés, crête au sommet de la tête. Le phénomène s'est ensuite invité dans les rues, a contaminé toute la France et s'est exporté même à l'étranger, notamment grâce à des vidéos publiées sur internet. Et c'est grâce aux réseaux sociaux, ou à cause, en fonction des points de vue, que la tectonique est de retour. La tectonique fascine une partie de la Gen Z, la génération née entre la fin des années 90 et le début des années 2010. On ne compte plus les vidéos de danse publiées sur TikTok qui reprennent parfois ce son que l'on entend de Yael, sorti en 2007. La tendance traduit une nouvelle fois une sorte de nostalgie chez une partie de la génération Z pour une époque jugée moins anxiogène. C'est pour le moins paradoxal quand on se souvient que la tectonique a eu une durée de vie très limitée. Vite moquée, comme vous le faites aujourd'hui, William, considéré comme comme trop kitsch, trop mercantile aussi et trop médiatique. Now you're gone. Bon bah quoi que vous en pensiez, il y a 20 ans, il faut reconnaître que c'est une petite Madeleine de Proust et un bon shot de dopamine en plein hiver.
Ouais, chacun ses opinions, hein, on est en démocratie. Merci beaucoup Maureen Signard, la météo.
France Info Météo avec Vérissure. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle priorité, votre sécurité. Demande de devis gratuit en moins d'une minute sur verissure.fr.
Christine Peña, de nouvelles pluies dans le sud.
Eh bien oui, c'est encore une journée que nous allons passer sous la pluie dans le sud. Alors elles se sont vraiment décalées de nouveau sur les Cévennes et c'est là où elles seront le plus soutenues. Nous avons du vent également en Méditerranée, sur la façade atlantique aussi. Alors les éclaircies arriveront à se développer sur l'ouest, mais la menace des averses reste présente, avec même quelques orages au sud de la Bretagne par exemple, mais vraiment sur le littoral et puis le long des côtes landaises. Aussi plus au nord, entre Bourges, Paris jusqu'à Lille, en Normandie également. Le ciel reste couvert, mais le temps sera calme toute la journée. Pas de pluie, normalement. Et puis, sur le nord-est, c'est là où le soleil devrait rester. Alors, légèrement voilé sur l'Alsace, en tout cas tranquille pour le temps, mais avec du froid. Des températures de nouveau négatives du côté de Strasbourg, mais également en Lorraine, jusqu'en Franche-Comté, en vallée alpine aussi. Nous avons quelques gelé, alors qu'ailleurs, la masse d'air est assez homogène. On est autour de 8 à 10 degrés de façon assez générale. Et cet après-midi aussi, autour de 12 degrés, alors qu'il fera un petit 3 du côté de Strasbourg.
Merci beaucoup Christine Peña. Lui aussi a ressorti ses bracelets fluo, sa crête et son jean slim. C'est Jérôme Chapuis.
Bonjour, je vous ai vu tout à l'heure en passant devant
avec
le
mes moulinets.
Avec vos moulinets, votre déhanché à la Travolta, danser la tectonique. Merci William Gay-Costa.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure pour le journal de 7h. Bonjour Christine Peña.
Bonjour.
Solène Cresson, Maureen Signard.